Nemo, on a une nouvelle mission.
Je suis prêt, Émilie.
Ensemble, on doit sauver le Québec avec...
Écoute locale!
Gare à mon arme secrète, la playlist. 100% nouveautés de la ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et mes questions qui tuent.
Écoute locale!
Les entrevues!
Écoute locale!
La playlist!
Lundi, 14h! On sauve la musique!
À Chiz 94.3.
Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et L'Homme qui a vu l'ours, présente L'inframonde de Jennifer Hallé dans une traduction d'Étienne Lepage et dans une mise en scène de Maxime Perron.
On a une belle maison ici, Iris. Tu fais partie d'une belle famille dans laquelle tu occupes une place importante. On a aussi une communauté agréable, mais tu sais ce qu'on offre, qui est le plus important, une vie en dehors de toute conséquence.
L'inframonde, du 14 mars au 1er avril 2023. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca.
Mercredi, auditeurs et auditrices, ici Madame Demel derrière la console, en direct des studios de Chiz 94.3. C'est une autre édition de Chérie, j'arrive qui débute en l'instant, en ce mercredi 15 mars. Encore quelques jours avant d'arriver au printemps. On ne lâche pas. L'une des choses qui nous aide à tenir le coup, c'est de vivre la culture et c'est ce dont on parle pour la prochaine heure et demie. Tout d'abord, une soirée se déroule à la Charpente des Fauves ce vendredi. C'est une soirée de financement pour tenter de sauver la forêt d'Atlanta. On en parle avec Thomas dans les prochaines minutes. Question de voir quelle performance, quel DJ set et quelle marchandise artistique nous pourrons nous procurer à la Charpente des Fauves. Estelle Grignon sera là comme tous les mercredis pour nous tenir au courant de l'actualité musicale montréalaise. Et on reçoit également la metteur en scène et sa mère de la pièce Décimée. Donc, Louise et Marie-Ève seront avec nous à 16h30. Ça prenait place au Périscope hier soir. On en rejase dans la deuxième portion de l'émission. C'est ce qui s'en vient à Chérie, j'arrive pour la journée. En ouverture, une pièce de Louis Charles en collaboration avec Élégie. C'est le titre La Maison, paru sur le tout premier EP du groupe Louis Charles. Groupe dans lequel il n'y a absolument aucun Louis Charles qui joue. C'est un nouveau projet dans la basse ville de Québec. Ça tombe bien parce que Louis-Charles, Élégie et Worry seront au Pantoum tous ensemble le 7 avril prochain. Donc, c'est pas fou là, que Louis-Charles et Élégie aient collaboré sur le titre La Maison. On pourra retrouver tous ces bands-là au Pantoum le 7 avril. Voici donc le titre La Maison, tout juste avant de vous parler de la soirée de financement de ce vendredi à la Charpente des Fauves.
Fou.
c'était La Maison, à titre de Louis Charles et Élégie sur les ondes de Chiz 94.3. C'est le moment de prendre vos billets pour le spectacle du 7 avril prochain. C'est sur la scène du Pantoum que vous pourrez voir ces deux groupes-là, en plus de Worry, performer. On s'en va du côté de la Basse-Ville, encore une fois, à la Charpente des Fauves. Ce vendredi, 16h, il y a une soirée de financement pour défendre la forêt d'Atlanta qui est organisée. Des perfos sont prévus, notamment de la marchandise artistique aussi. Et ben, on est en droit de se demander comment ça se fait qu'à Québec, on s'intéresse à la forêt d'Atlanta. À l'autre bout du fil, Thomas Paquette, pour nous parler de cette soirée. Bien le bonjour, Thomas.
Salut, Andréane. Merci beaucoup d'avoir donné cette opportunité-là.
Ben, c'est un plaisir, d'autant plus que la Charpente des Fauves, on est bien content que ce soit que ce lieu existe. Puis, crime, sauver des arbres, ça nous parle. Alors, Thomas, qu'est-ce que vous avez prévu faire, en fait, ce vendredi et pourquoi défendre la forêt d'Atlanta?
Ben ouais, pour commencer, vendredi, effectivement, à partir de 16h, c'est possible de venir dans le hall d'entrée de la Charpente des Fauves, puis dans la grande salle, là, pour voir une exposition d'abord qui porte sur la défense des forêts ancestrales de Colombie-Britannique. Mmh. Ensuite de ça, il va y avoir des performances à partir de 19h, puis ça va se finir avec des DJ là à partir de 22h. Donc toute la soirée, ça va être très animé, il va y avoir effectivement des choses qu'on va pouvoir acheter là pour encourager la défense des arrêtés en fait du mouvement pour défendre la forêt d'Atlanta, parce qu'en fait c'est beaucoup là que l'argent va aller. Mm-hmm. Puis peut-être ça permet de bien comprendre pourquoi on veut faire ça là. On voit ça un peu d'ici, c'est beaucoup de gens, beaucoup de communautés différentes dans la ville d'Atlanta.
Oh, je crois que je viens de te perdre, Thomas. J'espère que tu vas revenir rapidement. Et j'allais dire aux auditeurs, aux auditrices que oui, c'est possible d'arriver dès 16h à la Charpente des Fauves. On sait que vous n'aurez pas encore soupé à ce moment-là, mais il y a nourriture et breuvage offert. Tout ça sera à contribution volontaire à la Charpente. Et puis, on prévoit que ça va se terminer tard. Là. Les DJ sets commencent à 22h. Thomas, est-ce que tu es de retour à l'autre bout du fil? Ah, je crains que non. Alors, nouveauté musicale, Oui Merci, aujourd'hui, nous offrait une toute nouvelle chanson. Je vous inquiétez pas, je vais recontacter Thomas pendant cette interlude musicale. Voiture de course. C'est probablement le single qui nous annonce l'album qui va sortir à l'automne. On sait que ça se passe souvent comme ça. Le single nous annonce la bonne nouvelle. Dans le titre Voiture de course, il est question là, d'une relation amoureuse un peu tumultueuse parce que il y a un des deux partenaires qui se concentre vraiment plus sur les achats matériels compulsifs que sur la relation. C'est ce que raconte Voiture de course, la nouveauté de Oui Merci, que je vous offre à l'instant sur les ondes des Chiz 94.3.
I'm
Voiture de course, la plus récente chanson de Oui, merci sur les ondes de Schiste 94.3. On est de retour avec Thomas Paquette pour parler de l'événement de ce vendredi à la Charpente des Fauves, événement de financement pour la défense de la forêt de l'Atlanta. On se disait, Thomas, avant qu'on se quitte tout à l'heure, que la plupart des fonds amassés allaient servir à défendre les gens qui ont été arrêtés là, en défendant la forêt, justement.
Ben oui, effectivement, tous les fonds en fait qui vont dépasser les coûts, donc tous les profits de la soirée vont être versés directement au Fonds de solidarité d'Atlanta qui paye pour la défense des arrêtés du mouvement. Donc, comme vous savez peut-être, là, il y a une cinquantaine de militants du mouvement qui sont en prison, qui sont pas nécessairement des militants du mouvement, mais des gens qui ont été arrêtés dans différentes circonstances là, dans la forêt en participant à des événements ou simplement en étant sur les lieux pour participer à la défendre. Donc, c'est des sommes faramineuses là, qui sont engendrées par la défense de ces personnes-là. Donc, tous les fonds vont aller là.
Parfait. Donc, ça me semble bien clair pour ce que vous faites avec les sous. Pour ce qui est du programme de la soirée, bon, là, les gens sont invités dès 16h. C'est un catator, on va dire. Il y a quelques artistes qui vont être de la partie. C'est des performances artistiques que les gens vont pouvoir voir.
Effectivement, il y a trois personnes qui vont être présentes pour performer. Donc, il y a Allegria Gobeil, Hugo Nadeau et Arcadi. Je me souviens pas son nom de famille là, sur le bout de ma langue, mais c'est des artistes très en vue quand même dans le milieu de la performance. Fait que je pense que ça va être très, très intéressant.
Oui, tout à fait. Puis c'est des gens qui viennent pas nécessairement d'à côté, là, qui se promènent. Là.
Non, effectivement, c'est pas nécessairement des gens de Québec. Donc, on a fait un peu aller nos réseaux pour essayer d'avoir une offre la plus intéressante possible pour la soirée. Puis c'est des gens qui font de la performance très engagée aussi. Fait que je pense qu'ils ont été vraiment interpellés par la situation.
Mm-hmm. Dirais-tu qu'à Québec, il y a déjà des artistes ou une communauté qui se mobilise aussi pour défendre la forêt d'Atlanta? Est-ce que ce sera l'une des seules activités ou on prévoit d'autres choses autour de ça?
Je pense qu'on prévoit d'autres choses. Là. J'ai entendu parler, entre autres, qu'il y aurait peut-être un coupe-au-ton, donc des gens qui font de la coiffure, là, qui vont organiser une journée de coiffure pour ramasser des fonds. Il y a aussi une petite entreprise qui fabrique des médailles, qui fournit des médailles à l'effigie du mouvement, qui vont être vendues, entre autres, à l'événement. Puis, il y a l'atelier communautaire d'impression Le Pieu aussi qui a mis la main à la roue pour imprimer des très belles affiches, imprimer en sérigraphie sur des vêtements aussi qui vont être vendus sur place. Donc, il y a tout un petit monde là, qui s'active pour soutenir ce genre-là.
Donc, les gens qui sont déjà occupés vendredi soir peuvent quand même aller faire un petit croche à la charpente, acheter, encourager en achetant un objet d'art et puis repartir vivre leur vie. Mais sinon, de 4 à très tard, ça va se passer vendredi pour défendre la forêt de l'Atlanta. C'est la soirée de financement à la Charpente des Fauves. Thomas, tu as un mot de la fin en terminant?
Ben, merci beaucoup pour l'invitation puis merci à toutes les personnes qui vont se déplacer là, pour venir à la soirée. Je pense que c'est vraiment important de montrer notre soutien à des gens qui se mettent debout pour défendre ça à quoi ils tiennent puis qui font face à une répression extrêmement violente. Et je pense que c'est le bon moment pour sortir de chez soi puis de venir montrer la solidarité.
Tout à fait. Un grand merci d'avoir accordé ton temps sur les ondes.
Merci beaucoup.
À
bonne
vendredi.
Journée.
On poursuit en nouveautés musicales. Il y en a quand même quelques-unes pour un milieu de semaine, ça fait du bien. C'est pas juste le vendredi qu'on a droit à des nouvelles tunes. Hippie Oura revient, déjà avec une nouvelle pièce, c'est Pinceau au tombeau. On avait eu droit à Or aux dents numéro 1 et Or aux dents numéro 2 récemment. Ben là, voici le petit bébé du jour. Pinceau au tombeau de Hippie Oura. À Chérie, j'arrive.
Et tire ses pieds sous terre ou terre.
c'était Ipiura avec Pinceau au tombeau sur les ondes de Schiste 94.3. Lorsque vous entendez ce son, c'est que Estelle Grignon n'est pas bien loin. C'est la directrice musicale de Choc qu'on accueille à Chérie J'arrive. Bienvenue, Estelle.
Allô.
Comment te portes-tu?
Je me porte comme une fille qui est arrivée au travail aujourd'hui, qui a ouvert sa boîte courriel et qui a réalisé qu'on était le 15 mars aujourd'hui, c'est-à-dire journée de la sortie du nouvel extrait de Laurent Sam.
Oh! Alors, tu te portes bien.
J'aime tellement tout ce qu'elle fait. J'ai adoré son premier album, au point où j'étais nerveuse de son deuxième. Mmh. Finalement, il est sorti, je l'ai adoré aussi. Et là, voilà qu'une nouvelle chanson. Je ne sais pas trop si un album un peu qui s'en vient, mais... Oh, ça me fait du bien.
T'as un petit coup de cœur pour Laurent Sam, je pense. T'as un coup de cœur également pour Safia Nolin, qui a sorti Carrie aujourd'hui, une nouvelle chanson. Les auditeurs, les auditrices pourront l'entendre sous peu. Puis t'as un bon coup de cœur pour Thaïs, toi.
J'ai plein de coups de cœur. Il y a Oui Merci également, qui a sorti une chanson aujourd'hui qui s'appelle Voiture de course, avec un très, très cool vidéoclip. Mais Thaïs, oui, mon Dieu, énorme coup de cœur infini et intemporel pour cet artiste qui a fait les Francs Ouvertes, c'était en 2020, qui s'est retrouvé à nouveau aux Francs Ouvertes lundi dernier, alors que, parce que voilà, c'est les Francs Ouvertes en ce moment, on en parlera dans quelques instants, mais aux Francs Ouvertes, il y a la tradition d'inviter des ex pour briser la glace. C'était Thaïs qui était invité lundi. Ils ont pu l'avoir faire quelques chansons, faire une nouvelle pièce même, et là voilà que, parce que j'en ai jamais assez, mon Dieu, demain, au Ritz PDB, il y aura un spectacle de Thaïs.
Oh,
et j'ai très, très hâte de la voir. Je l'ai vue à plusieurs reprises dans les derniers mois, entre autres lors d'un spectacle solo au mois de janvier. Mais là, c'est comme son premier vrai spectacle full band à Montréal depuis la sortie de son album « Tout est parfait ». Parce que quand l'album est sorti, il n'y a comme pas vraiment eu de... grand lancement officiel. Mais là, voilà que ça va se passer demain au bar le Ritz PDB. Et apparemment, il faut vraiment mentionner que c'est le Ritz PDB parce qu'il y a des gens, je comprends d'ailleurs qu'il y avait une chroniqueuse culturelle dont j'ai oublié le nom, mais de toute façon, je l'aurais pas mentionné, qui s'est comme un peu mélangé entre le bar le Ritz PDB puis comme l'hôtel,
Ritz
Carlton. Puis là, l'animatrice, pauvre chouette, elle pensait que probablement que dans sa semaine de 70 heures, elle s'est mélangée en quelque part, puis ça arrive, tu sais, comme elle pensait que le spectacle, ça se passait dans l'hôtel. Elle allait faire ça sur le piano, dans le lobby, ou je sais pas quoi. Non. D'ailleurs, tu sais, ça fait plusieurs stories dans la dernière semaine pour dire aux gens, c'est pas là-bas. C'est bien au bar, le Ritz PDB, bar auquel j'ai été voir de nombreux spectacles. Autant des projets très doux comme Ambre Ciel que des projets très, très punk comme Cloud Nothings. C'est un bar qui se situe donc près de la station de Castelnau. C'est un coin un peu bizarre, il n'y a comme rien autour, mais il y a des très bons shows qui se passent, beaucoup de soirées de danse aussi très queer qui s'y passent. C'est un bar qui est accessible pour des personnes en fauteuil roulant. C'est un bar aussi où les toilettes sont accessibles et où les toilettes sont non-genrées aussi. Ils se sont rendus compte que surtout on peut juste enlever l'écriture qui dit « goffer » et mettre juste le mot « toilette ». C'est ça que les gens ont besoin de savoir. Puis voilà, donc Ritz PDB. C'est pour tout le monde qui a au moins 18 ans, parce que c'est un bar.
La séparation, la seule séparation de toilettes dont on aurait vraiment besoin, c'est peut-être une toilette pipi puis une toilette caca. Comme ça, on sait de quel côté aller selon nos besoins. Tu sais.
Puis juste une toilette confession.
Ah oui, celle où on retourne se maquiller puis jaser un peu. Puis...
Ouais, tu sais, des fois, mettons, ton ami a fait le pas, puis t'es comme, viens-t'en, on va aller se cacher des toilettes, puis on va aller jaser un petit peu, puis on va aller... dire tous nos secrets, tu sais. Peut-être que ça serait pertinent. Mais en même temps, le nombre de fois où j'ai vécu des confessions dans les toilettes des filles avec une personne qui était rentrée à la base pour faire ses besoins, puis après ça, ben, elle sort de là, puis elle me dit, mon Dieu, ça tue pas de bon sens que mes amis m'ont jamais dit que ma fly était ouverte, puis on commence à jaser. Finalement, on devient les meilleurs amis du monde, puis on se freine à la fin de la soirée.
Wow! Ben, qui l'eût cru?
Voilà, ça va cette fille-là, d'ailleurs, parce que ça, c'est une histoire vécue, ça.
Eh bien, on est parti de Thaïs pour se ramasser complètement ailleurs. Mais c'est tout ça voulait nous amener jusqu'aux Francs Ouvertes qui ont commencé lundi, Estelle.
Et voilà, il faut que je vous explique une chose déjà, un avertissement. Je ne peux pas commenter publiquement en ce moment mon appréciation des spectacles que j'ai vus aux Francs Ouvertes jusqu'à maintenant. Mm-hmm. La raison étant que je suis juge.
Voilà. Alors, tu resteras neutre.
Du grand jury de l'industrie des fonds couverts, donc je dois faire attention. Je ne peux pas vous dire si ce ben-là, c'était bon, si ce ben-là, c'est pas bon. Je ne peux pas vous dire où est-ce que je suis d'accord, pas d'accord avec le palmarès jusqu'à maintenant. Mais voilà, les fonds couverts, c'est recommencé. Ça commençait donc lundi dernier pour la 27e édition. On a une soirée un peu plus rock lundi. Hier, c'était une soirée un peu plus art pop, disons ça comme ça. Voilà donc six artistes qui sont passés. Il y en a encore plusieurs, une quinzaine à voir, les spectacles qui ont lieu au Lion d'Or. Endroit qui, là, j'essaie de réfléchir, qui est quand même relativement accessible-ish, mais je vous conseillerais peut-être d'appeler pour être bien sûr que ça fonctionne pour vous. Ce qui est cool, évidemment, moi, je fais partie du jury, mais je suis pas la seule personne qui décide des résultats, puisqu'il y a un jury composé de gens de l'industrie qui donne des notes aux artistes, et ça, ça compte pour 50% du vote.
L'autre
50%, c'est le public. C'est le public qui est en salle, les gens qui vont au Lion d'Or physiquement, qui remplissent le bulletin de vote, qui donnent une note de 1 à 4 à chacun des artistes. On peut donner 4 à toutes les bandes, on aime vraiment ça. On peut donner 2 si on trouve que tout est un peu moyen. Mais aussi, et ça, je pense que c'est pertinent pour les gens de Québec de savoir ça, parce qu'évidemment, je vous propose des spectacles, je vous propose des activités. Je sais bien que c'est pas tout le monde qui m'écoute qui avait prévu de se prendre un Amigo Express pour la métropole ce week-end, mais sachez que depuis quelques temps, c'est possible d'assister et de voter en ligne pour les fonds couverts.
Oui, c'est depuis la pandémie, en fait.
Vous achetez un billet, je pense que c'est 16,80 ou quelque chose comme ça, qui vous permet donc de voir en ligne le spectacle, ce qui est vraiment chouette, surtout pour les artistes qui ne viennent pas de Montréal. Parce qu'avant, tu sais, tu es en ville de Montréal, tu invitais tous tes amis, tout le monde rentrait au Lion d'Or.
Ça te donne des chances.
C'était pour toi. Puis là, si toi, tu venais de Québec, ou par exemple, cette année, il y a le groupe Peanut Butter Sunday qui vient, qui est un groupe acadien, ben là, les gens ne vont pas se déplacer de l'Acadie pour aller à Montréal pour aller voter pour toi. C'est un peu, point de vue logistique, c'est difficile. Mais donc, si vous avez des amis, si vous avez des gens, des groupes que vous aimez déjà, qui font les fonds couverts, qui viennent de Québec, qui viennent de votre coin, qui viennent de peu importe où vous êtes, parce que mon Dieu, il y a des gens qui écoutent Chiz un peu partout, hein. On peut écouter les épisodes en rediffusion sur le site web. Ben, vous pouvez acheter votre billet, regarder le spectacle complet. Qui sait peut-être découvrir d'autres artistes parmi ceux qui sont là le même soir. Et surtout, donner votre vote, donner votre appui à vos amis et peut-être donner votre appui aussi aux autres groupes que vous trouvez bons au travers de tout ça. Donc, je vous invite à aller sur le site des Francs Couverts. Je ne sais plus du nom par cœur, mais googlez Francs Couverts, vous allez trouver. Vous trouvez un site web en 2023, c'est facile. Hein?
Tout à fait.
Ça fait bien. Et voilà, c'est une chose que je peux dire, c'est que moi, chaque année, je découvre énormément de projets absolument magnifiques. Sur Francs Couverts, entre autres, que j'avais découvert mon bon ami Thierry Larose. À l'époque, c'est au Francouverte que j'ai découvert Calamine aussi. Je la connaissais pas vraiment avant. Ambrefil, qui est un projet que j'adore. Écoute, je les nommerai pas tous, mais il y en a là, des artistes qui font Francouverte puis qui ont des belles carrières. Laurent Sand, bon Dieu, j'ai parlé d'elle au début. Ben, c'est une fille qui a fait la finale des Francouvertes. Les Louanges, Jean de Lévy, c'est quelqu'un qui a fait des Francouvertes aussi, qui s'est rendu en finale. Bref, le futur de la musique, on peut y avoir accès maintenant. Oui.
C'est un sacré beau tremplin, les Francouvertes.
Ah, absolument. Absolument. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de festivals, entre autres, qui gardent un œil et une oreille ouverte aux Francouvertes, qui donnent des prix aussi. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a des artistes qui font les Francouvertes et qui, l'été suivant, se retrouvent aux quatre coins de la belle province pour faire des spectacles. C'est parce qu'il y a des prix qui sont donnés, que c'est par exemple une prestation à la noce ou une prestation à Santa Teresa. Il y a des artistes qui vont gagner des vitrines, qui vont gagner des heures de studio, qui vont gagner de l'aide, même de l'aide juridique aussi, parce que des fois, être musicien, avec les droits d'auteur, avec toutes ces choses-là, ça peut être compliqué à naviguer. Donc, il y a tellement de prix que les artistes qui font les Francouvertes aussi, ça leur donne un méchant gros boost, un méchant gros coup de pouce pour après ça se retrouver dans vos oreilles et dans vos playlists de Montréal Chill.
Et Estelle, en terminant, un petit mot sur Russell Lauder. C'est une artiste que moi, j'ai personnellement découvert tout récemment, mais je pense que toi, tu as des petites actualités musicales à propos.
Voilà, ça se passe à la Casa del Popolo ce dimanche. Russell Lauder et Eve Parker Finley, deux artistes de la diversité de genre. Russell Lauder qui... mon Dieu, j'ai oublié de vérifier ses pronoms pour être certain, mais c'est certain, mais c'est une personne qui... Russell Lauder est trans masculin. Moi, je l'ai vu en spectacle pas dans le Focus. Était là aussi.
Tout à fait.
Mon Dieu, son charme aussi, Russell, qui était seul sur scène et qui a réussi quand même à s'accaparer du petit public qui était là. On n'était pas assez, je pense, mm-hmm. pour son spectacle. Donc, à Montréal, ça va peut-être pogner un petit peu plus. Russell Lauder, que j'ai aussi croisé en étant dans un dépanneur spécialisé en bière de microbrasserie une fois, Russell est rentré. Puis là, j'étais comme, pas bien sûr, c'est Russell Lauder. Fait que j'ai googlé sa face. Puis après ça, j'ai juste montré mon téléphone. Puis j'étais comme, is that you? Puis Russell va être comme, oui. Voilà. Russell Lauder et Eve Parker Finley, que personnellement, je connais plus pour sa présence sur les médias sociaux. Eve Parker, qui est très, très active sur Instagram et sur TikTok, qui fait beaucoup de vidéos aussi, qui a des partenariats avec différentes compagnies, mais qui est aussi, d'abord avant tout, musicienne. Mm. Donc, deux artistes qui sont anglophones, mais qui sont bien établis à Montréal, qu'on pourrait avoir au coût de 12$ à la Casa del Popolo. Un autre bar qui est facilement accessible pour tous et où les toilettes sont non genrées. Ce qui est vraiment bien, là, surtout un spectacle comme ça, tu reçois des gens de la diversité de genre. Ça vaut la peine.
Mm-hmm. Estelle Grignon, merci de nous tenir au courant de ce qui se passe dans la communauté musicale montréalaise. Je pense qu'on se reparle mercredi prochain et on va s'en tenir à tes commentaires objectifs à propos des Francouvertes, puisque tu fais partie du jury.
Voilà, il y a 3 groupes par soir.
Oui, et puis on peut acheter les billets à distance, même si on n'est pas au Lion d'Or.
Voilà, ben oui, on va aller tout ça en ligne aussi, mais ils font un travail incroyable, les Francouvertes, pour pouvoir donner un bon produit virtuel.
C'est vrai. Puis les capsules vidéo faites à propos des 21 artistes sélectionnés aussi sont super bien réussies. Chapeau,
oui,
les Francouvertes.
Vraiment. Absolument. Ouais.
Merci encore beaucoup, Estelle, et à très bientôt.
À bientôt.
Nouveauté musicale avant la courte pause publicitaire. Je vais vous présenter Carrie, la plus récente pièce de Safia Nolin. C'est en fait sa première sortie en anglais. C'est aussi sa première sortie comme indépendante. Et c'est sa première sortie depuis un sacré bout de sa relation avec la musique qui est en train d'être construite et déconstruite, reconstruite pour Safia. Alors, je pense que ça va faire du bien de la retrouver. On espère que cette pièce recevra un bel accueil. Et tout de suite, au retour de la pause, on s'entretient à propos de Décimé, pièce de théâtre qui vient de prendre l'affiche. C'était hier soir la première au théâtre Périscope. Il sera question de racines, d'adoption, d'identité, tout ça au retour de la pause. Mais pour le moment, la nouveauté de Safia Nolin. Carrie, sur les ondes de Chiz 94.3.
Avide de découvertes? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
À cause des tentes sportives, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque.
À conduite antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite antisportive, mardi et jeudi de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Desjardins, c'est un monde de possibilités de carrière. C'est plus de 800 types d'emplois dans plusieurs domaines au-delà de la finance comme l'éducation, les technologies de l'information et les communications. Évoluez au sein d'une entreprise qui vous permet de vous réaliser autant dans votre vie professionnelle que personnelle. Avec des centaines de millions remis aux membres et à la communauté par année, chez Desjardins, vous ne bâtissez pas que votre carrière, vous bâtissez plus grand que vous. Trouvez un poste près de chez vous sur desjardins.com/carrière.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but!
Les Remparts de Québec reçoivent l'Armada de Blainville-Boisbriand ce mercredi 15 mars à 19h. Rejoignez Rick Loutier sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts, Armada, mercredi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne, et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance que l'on vous accueille un lundi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 pour entendre les auteurs et les autrices de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matins.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. L'émission du retour culturel à la maison se poursuit jusqu'à 17h30. Et en termes de culture, on la vit. Et puis, elle est souvent renversante, cette culture-là, dis-je. C'est ce qui m'est arrivé hier au Périscope. Apportez vos mouchoirs si vous prévoyez aller au théâtre prochainement, parce que la pièce décimée vient de prendre l'affiche. C'était la grande première hier. Et pour en discuter, j'ai deux personnes qui ont eu un rôle plutôt important à jouer dans cette pièce-là. D'abord, Marie-Ève, ben, c'est ta pièce à toi. Et puis, Louise, c'est une pièce qui parle un peu de vous.
N'est-ce pas?
On va le dire comme ça. Ben, merci beaucoup à vous deux d'être en studio. C'est une pièce qui parle d'identité, de racines, d'adoption, qui se situe quelque part entre la fiction et le documentaire. Est-ce que Marie-Ève, tu voudrais dire peut-être des informations plus exactes à propos de ton œuvre?
Oui, tout à fait. Merci de nous recevoir, Andréane.
C'est un plaisir.
Donc, c'est sûr que l'histoire de ma mère, moi, c'est mon point de départ pour créer ce spectacle-là. Donc, étant donné que à chaque fois que j'en parlais avec des gens de son histoire, de son processus de recherche aussi, puis de comment ça se passait, les gens étaient soit étonnés, soit très émus. Fait qu'à un moment donné, on a fait ben coudonc. Je pense que c'est de la belle matière, ça, à mettre en scène. Aussi parce que c'est un sujet qui était plus ou moins connu de toutes les générations ou dont on parlait peu à la maison, des adoptions dans ces années-là. Donc, on s'est dit, voilà, une belle occasion de faire découvrir tout ça au petit et au grand public. Voilà. Donc, puis c'est ça, c'est vraiment un métissage de la réalité, de la fiction, donc une partie de l'histoire.
Puis c'est le cas de le dire, c'est vrai que c'était pas nécessairement connu. Moi, j'ai découvert avec vous autres cette vague-là d'adoption au Québec dans les années 40 à 70. Louise, comme personne adoptée, est-ce que c'était une réalité qui t'était très familière ou au contraire, pour toi aussi, il y a eu beaucoup d'apprentissage à travers le travail de la pièce?
Non, moi, vraiment, c'était ma vie que j'ai vue, moi, dérouler hier soir. Je croyais pas. J'ai été surprise de voir toutes les scènes qui se présentaient. Mais j'ai aimé beaucoup lorsque les comédiens... Lorsqu'il y avait une scène qui était quand même assez... sensible, mm-hmm. n'est-ce pas? Et qu'ensuite, on revenait avec un petit bout un petit peu plus joyeux qui se passait. Alors, ça faisait comme des montagnes russes, mm-hmm. mais ça nous aidait à passer à travers. Moi, ça m'a aidé parce que j'avais des moments où j'étais très sensible et d'autres moments où que mm-hmm. c'était plus... plus un petit peu drôle, donc je mm-hmm. reprenais mon souffle, oui. on peut dire, et puis mon Kleenex, et puis
oui, voilà. C'est vrai qu'il y a un bon dosage entre les moments de forte émotion, les moments d'instruction aussi, puis les moments de rire. Marie-Ève, comment ce mix-là s'est décidé entre fiction et documentaire? Parce que j'ai l'impression que la pièce décimée est un peu à la frontière de mm-hmm. deux type.
Oui, oui, oui. C'est comme si on n'est pas dans du théâtre documentaire à proprement dit, c'est parce ça. Que souvent, ça, c'est la personne, comme, mettons, je pourrais être sur scène voilà. et raconter l'histoire, mmh. un peu comme on a vu avec, bon, Jamie Drault et tout ça. Fait qu'on n'est pas là, puisque les personnages de la famille sont des personnages inspirés des personnages réels, mais ne sont pas Lise, donc mm-hmm. c'est Louise, c'est donc Lise, mon Dieu, le personnage. mais il y a plusieurs autres personnages qui, eux, sont vraiment plus ancrés dans le réel, donc qui portent cet aspect documentaire-là, mm-hmm. comme, par exemple, la directrice du mouvement Retrouvailles, avec qui on a collaboré dans la création, qui nous a permis de prendre son nom, puis de le donner à un personnage. Mm-hmm. Comme ça, les gens qui viennent voir le spectacle, puis qui, par exemple, quelqu'un qui a été confié à l'adoption voit le spectacle, se dit « Ah, bon, mais j'ai toujours eu envie, j'avais pas l'impulsion nécessaire pour commencer des démarches, mais là, ça me tente maintenant, ça mm-hmm. me donne envie. » Mais ils savent qu'ils vont pouvoir appeler au mouvement Retrouvailles qu'on nomme dans le spectacle et parler à Caroline Fortin. Donc, pour ça, c'était très important. Puis en même temps, de faire connaître la vraie histoire, on n'avait pas le choix de prendre des vraies références mm-hmm. historiques, sociales, puis au niveau de la psychologie aussi. Là. Mm-hmm. Voilà, fait que ça, pour moi, c'est important. Fait qu'on est vraiment... tu sais, à la frontière, là, ça, on flirte avec le documentaire et la fiction là, tout au long de l'œuvre.
Mm. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de prendre soin aussi des gens, du public, des personnes adoptées, de créer mm. des ponts. Puis Louise, là, je me retourne vers toi, parce qu'il y a quand même une expo, il y a des gens qui ont été rencontrés, des entrevues qui ont été menées, un mm. atelier d'écriture poétique. Ton processus à toi, créatif, là, à travers la pièce, est-ce que ça t'a apporté? Comment ça t'a nourri?
Ça nous a nourris beaucoup parce que ça nous a fait ouvrir sur nos histoires. On était sept madames qui avaient été adoptées, mais avec des histoires complètement différentes. Ça nous a permis, par le dessin, par la poésie, de nous... le collage, des belles ateliers. Et puis, ça nous a permis de nous extérioriser ou de montrer la pensée qu'on n'a pas toujours dit ou qu'on n'a pas dit parce qu'on était peut-être coupable. La culpabilité chez les personnes adoptées et chez les parents mm-hmm. qui laissent leurs enfants. Ouais. En 2023, on devrait plus voir ça. Mais on le voit encore. Alors ça nous a permis, nous les adoptés...
De se libérer
un peu. De se libérer complètement ouais. de ce sentiment-là. Puis, je suis sûre que les filles, demain, on va se rencontrer ensemble, la médiation culturelle, toutes les jeunes, on est quand même plus jeunes que ça, mais quand même. Et on va se rencontrer. Et puis, je suis sûre qu'il n'y en a pas une maintenant qui a honte de dire « j'ai été adoptée mmh. », moi, ou gênée de dire « j'ai été adoptée ». Aujourd'hui, moi, je suis fière de dire « j'ai été adoptée wow. ». J'ai retrouvé mes origines. C'est sûr que j'ai cherché longtemps. Ça a été long avant que ça arrive. Ça a pris presque 70 ans avant que j'aie des résultats vraiment positifs. Mm-hmm. Mais j'ai jamais lâché. Puis avec l'aide de Marie-Ève, de Gilles, mon conjoint, j'étais bien appuyée. Alors, à ce moment-là, parce que la famille aussi est concernée là-dedans. Il n'y a pas juste la personne qui est adoptée. Tu as ta famille aussi. Mm-hmm. Ça élargit autour de cette personne-là.
Et il y a beaucoup de comédiens et comédiennes sur scène pendant Décimé, parce que justement, c'est peut-être ce que ça nous permet de prendre conscience. Il y a bien plus que la personne adoptée qui est touchée par la situation.
Oui, exactement. La famille proche de la personne, mm-hmm. les parents, bien évidemment, biologiques quand ils sont... appeler ou quand il va y avoir des retrouvailles, des rencontres, les parents adoptifs aussi, tu sais, on ne faut pas les oublier là-dedans. Eux autres aussi ont leur partie de crainte des fois quand l'enfant devenu adulte et même parfois très âgé dit je veux rechercher. Eux, des fois, ils ont peur de perdre leur enfant alors qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. Puis c'est très important de faire comprendre que c'est pas parce que la personne a pas bien été dans sa famille qu'elle recherche. Les gens, souvent, ont été très, très heureux. Et ça, c'est un préjugé qu'on a dans l'idée de tu veux rechercher parce que t'as pas été bien. Mais non, tu sais, c'est pas du tout ça. C'est juste un besoin qui est complètement normal et humain et fondamental d'avoir accès à nos origines.
Un morceau de casse-tête que tu veux ajouter là, à ton portrait.
Oui, puis lorsque tu peux le compléter complètement, c'est là que tu es libéré complètement.
Oui.
Mais ça prend du temps. Il faut être patient aussi parce que tu as quand même beaucoup de formulaires à remplir, beaucoup de personnes à rencontrer.
Tu rencontres des obstacles.
Ça va jamais assez vite à ton goût. Mais avec les nouvelles lois qui ont sorti, ben, ça va aller un petit peu plus vite. Malgré qu'il faut attendre encore. Même avec la nouvelle loi numéro 2, ben, on a encore un 2 ans à attendre malgré tout.
On n'y est pas encore.
Elle est passée, la loi, mais on a encore 2 ans d'attente.
Oui.
Alors, ça, il faut être patient. Mais comme disait Marie-Ève, les parents adoptifs, je pense que faut pas être coupable de le faire. On a peur de leur faire mal. Et puis ça, faut pas. Et puis pour eux autres, c'est la même chose. Faut pas qu'ils aient peur qu'on les laisse parce qu'on les laissera jamais. Vrai. Quand on a été bien quelque part, c'est pas parce qu'on sait nos origines qu'on va partir et s'en aller.
Et je pense qu'à ce titre-là, Décimé déconstruit beaucoup de ces préjugés-là ou de ces préconçus-là qu'on a à propos de l'adoption. Marie-Ève, tu as fait la mise en scène de la pièce, mais le texte est également de toi. Est-ce qu'il y a des choix que tu as dû faire? Parce que, comme on le dit, il y a beaucoup de personnes touchées, il y a plein d'intervenants, des associations, il y a tout le volet législatif de l'adoption. Quels sont les choix déchirants que tu as dû faire dans l'écriture? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu mettes de côté?
1200 millions de choses, Andréane. Je te dis, là, ça a été souffrant, cette partie-là de pas pouvoir tout dire parce que je me suis fait raconter plein d'anecdotes, des histoires, mon Dieu, des femmes par exemple les puéricultrices, celles qui s'occupaient des bébés à l'époque, et on en avait rencontré nous dans le début du processus de création. J'ai 2 heures d'enregistrement avec des anecdotes tout le long, magnifiques, comme hier, il y en avait une qui était là après le spectacle, Madame Suzanne Chartré, était tellement heureuse qu'on parle enfin de ce qu'elle a fait de sa vie, tu sais, parce que des fois les gens ont dit puéricultrice, qu'est-ce que ça
et
fait,
ça? Et de nous
ça,
dire qu'elles se sont bien occupées aussi des petits-enfants qui étaient là.
Elle tenait à ça, puis elle me racontait à nouveau une anecdote qu'elle nous avait racontée qui était très belle, soit qu'elle, dans le fond, son travail, c'était aussi de baptiser les enfants. Donc, les enfants naissaient, fait qu'ils pouvaient avoir les baptêmes dans la journée, fait qu'elles étaient comme les marraines. Puis elle prenait les enfants, puis elle dit à un moment donné, il y avait une mère qui était comme derrière, elle s'était cachée. Il n'y avait pas le droit d'être là. Puis elle était venue la voir et elle lui avait dit... Est-ce que je peux avoir mon enfant redonné le moi? Puis elle disait, je ne peux pas lui donner, j'ai pas l'autorisation, mais tu sais, c'est son enfant, mais je peux pas. Là, qu'elle était complètement déchirée. Fait que tu sais, ce genre d'anecdote-là, tu te dis, mon Dieu, c'est tellement fort et puissant, mais moi, il a fallu que j'en choisisse parce que sinon, ça aurait duré 7 heures. Il aurait fallu que je sois, que je sois Robert Lepage avec toute sa compétence, son intelligence et tout ça pour faire un show, tu sais, de qui se pouvait, mais j'aurais eu de la matière pour le faire. Une trilogie. On aurait dû faire une trilogie.
Décimer 1, 2, 3.
Exactement. Ouais. Pour couvrir tous les pans sociaux, historiques, psychologiques. Il y avait tellement d'affaires.
Puis il y a plein d'extraits qui sont diffusés aussi à ce titre-là, la mise en scène, puis le jeu avec les décors est bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux d'archives là, que vous êtes allés retrouver pour représenter. Il y a un gros travail de recherche. À la fois, Louise a fait ce travail-là pour retrouver ses origines. Toi, tu as fait ce travail-là aussi, mais pour le processus de la pièce. Les deux, vous êtes des curieuses, quoi, puis des tenaces, là.
Oui, je dirais tenaces.
Oui, tenaces.
Curieuses aussi, mais je pense plus tenaces. Elle est très tenace aussi. Puis quand elle part avec un projet en tête, puis moi, je pense que ça a été pareil. Elle a vu comment que j'avais besoin d'une petite poussée à un moment donné, après une retrouvaille qui n'avait pas marché, puis tout ça. Mais j'ai eu besoin d'une petite poussée pour dire, ben elle voyait que j'avais besoin. Comme d'autres auraient besoin. Alors, elle dit, allez, on y va, maman, on donne le coup. Puis, c'était la plus belle chose qui a pu arriver, ça, pour moi. Là, Puis, pour elle aussi, parce qu'elle aussi, ses origines, moi, c'est pour mon enfant, mais c'est aussi pour mes petits-enfants plus tard. Puis ils vont savoir vraiment, maintenant, elle avait le côté de son père. Ben là, elle a le côté de sa mère. Puis, on est fiers de ce qu'on a trouvé, nos origines. Alors,
puis on le voit dans la pièce, pour les petits-enfants aussi, c'est à la fois un choc, puis c'est important de comprendre exactement d'où on vient. Marie-Ève, à quel point le personnage de la pièce est inspiré de toi, parce qu'on est dans la docu-fiction, mais j'imagine que ça t'a apporté beaucoup à toi aussi.
Oui, mais c'est sûr qu'il y a des choix dans la façon de réagir du personnage de Marianne qui sont un petit peu plus intenses que, mettons, comment moi j'ai réagi.
J'aime le doute, là. La radio est un média oral. Je peux vous dire que Louise fait des petits hochements de tête, là.
Disons que j'ai reconnu beaucoup Marie-Ève en Myriam.
Oui, c'est ça, Myriam, c'est la comédienne qui joue le rôle de Marianne, donc Marie-Ève. Oui, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup de comment moi je me suis sentie, que de ce qu'on a vécu dans les retrouvailles, là, dans le processus de retrouvailles avec la famille. Mais c'est vrai que je deviens un peu, tu sais, on devient un peu obsessive avec ça, là. Pendant le processus, il y a une radio qui s'appelle, une émission de radio, justement, qui s'appelle Loin des yeux, près du cœur, qui est un genre de podcast maintenant, là, qui sort sur SoundCloud. Et depuis 2016, il y avait une émission par jour où c'était des témoignages de gens d'aujourd'hui qui recherchent. Wow. Donc, ils disent bonjour, je recherche ma mère, voici mon histoire. Et moi, je les ai écoutés parce que je me disais, je veux me nourrir de tous ces témoignages-là. Alors, je faisais la vaisselle, le ménage, j'allais courir écoutant ces témoignages-là. Le générique là, de Normé, je l'ai entendu je ne sais combien de fois. Donc, j'ai parlé à Normé. Finalement, j'ai témoigné à l'émission aussi. Mais tu sais, je pense que mon cerveau, c'est ça. C'était le temps que ça vienne au monde parce que
ça devenait une obsession.
Quasiment. C'est ça. Ouais.
Eh bien, Décimé, c'est une pièce documentaire. Mais bon, avec un peu de fiction quand même, Marie-Ève, on le disait, qui porte sur ce processus-là de recherche de soi, de ses racines, sur le soulagement, sur ce que ça apporte à la famille. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour au Périscope, d'autant plus si c'est une réalité qui nous est inconnue. C'était mon cas. J'en suis sortie sensibilisée aussi à cette réalité-là, puis à l'importance qu'il y ait des lois qui puissent aider les gens à retrouver leurs racines. Il y a aussi une exposition qui entoure la pièce, Marie-Ève, puis le vernissage est d'ailleurs demain.
Oui, exactement. C'est Julien Saint-Georges qui a été le commissaire d'exposition. Donc, puis lui, il est venu voir donc les femmes aussi en médiation culturelle pendant les ateliers. Fait que il a pu les côtoyer. Fait qu'il y a comme deux pans à l'exposition. Le premier pan, c'est donc les archives des sœurs du Bon Pasteur de Québec, les sœurs qui s'occupaient de la crèche Saint-Vincent-de-Paul, qui nous ont ouvert leurs archives photos, vidéos aussi. Donc, on a pris de ces photos-là qui nous touchaient beaucoup. Il y en avait aussi 1200, on a dû faire des choix déchirants encore une fois. Puis on en a donc exposé dans le hall du Périscope. Et l'autre pan, c'est des photos de la médiation culturelle, donc de ces femmes qui ont toutes été confiées à l'adoption et qui ont toutes été en processus de retrouvailles, qui s'est soldé, heureusement, qui s'est pas encore soldé pour certaines. Donc on peut voir ces deux choses-là cohabiter avec certains documents d'archives là et tout. Donc ça, c'est les gens peuvent y aller là pendant la journée au Périscope quand c'est ouvert, sur les heures d'ouverture, aller regarder. Donc
jusqu'au 1er avril, Décimé, une pièce de la compagnie Les Gorgones. Marie-Ève Chabot-Lorty, merci beaucoup. Et Louise Chabot, merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Merci.
Je vous souhaite encore bon processus. J'ai l'impression que ça se termine pas tout de suite, là, en tout cas. Vous en avez jusqu'au 1er avril avec tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci beaucoup.
En musique, c'est une nouveauté de Oli Laroche que je vous fais découvrir. Ça s'intitule Le Secret. La voici sur les ondes de Chess 94.3.
Le secret, nouveauté de Holly Laroche à Chérie, j'arrive. Si vous étiez à l'écoute de l'entrevue à propos de la pièce Décimée, qui est au Périscope jusqu'au 1er avril, eh bien, je vous invite à rester à l'écoute parce que vers 17h10, je ferai tirer une paire de billets pour la représentation de ce jeudi. Si j'ai piqué votre curiosité avec ce sujet, cette pièce documentaire à propos de l'adoption, eh bien, 17h10, restez pas trop loin de votre téléphone. Je vous offrirai, chers auditeurs, chères auditrices, une paire de billets. Pour le moment, on s'en va en mode cinéma avec Nathan Murray. Bonjour, Nathan.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, grosse semaine cinéma. J'ai réalisé que c'était l'une des premières fois en 10 années dans les médias universitaires, si on accepte l'année noire de la pandémie, où je ne faisais pas de chronique pré-Oscar.
Oh.
Donc, je vais me rattraper aujourd'hui en chronique post-Oscar.
Oui, donc grosse semaine. En effet, c'est une des soirées les plus attendues dans le monde du cinéma, dirais-tu?
Oui. Il y a deux grands happenings dans le monde du cinéma qui ont une meilleure presse que les autres. Hein. C'est les Oscars et le Festival de Cannes. Mais le Festival de Cannes... on se tape pas les cérémonies, évidemment, malgré qu'elles soient télévisées en France, par exemple. Les Oscars non plus, ceci dit. Hein. Moi, j'ai toujours pour mon dire, on va voir un bon film pendant la cérémonie, on revient sur les discours, puis on regarde la liste des gagnants. Après, c'est beaucoup moins de temps perdu, même si parfois on manque une gifle de temps en temps.
Ah oui, voilà. Mais pas de scandale à la cérémonie de cette année.
Non, une cérémonie relativement sage de ce qu'on a pu lire. Le grand scandale, ça semblait être la non-entrevue de Hugh Grant au début du gala. Donc, autant dire presque rien. Ce qui a surpris plusieurs personnes, alors que c'était très prévisible, c'est le triomphe d'un film qui est paru sur nos écrans il y a presque un an, donc qui date particulièrement, mais qui a été redécouvert au cours des derniers mois. Donc, Everything, Everywhere, All at Once, tout, partout, tout à la fois, qui a vraiment fait main basse sur un nombre assez impressionnant de statuettes.
Un nombre assez impressionnant, c'est-à-dire combien?
J'ai oublié le chiffre précis. Je pense que c'est 7.
Hein?
Mais 7, dont les catégories de pointe. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleure actrice, meilleur acteur de soutien et meilleure actrice de soutien.
Wow.
Donc, vraiment, c'est un coup de circuit pour ce film-là. Je dis que c'était pas surprenant dans la mesure où les cérémonies des guildes professionnelles auparavant avaient beaucoup récompensé, avaient récompensé assez fréquemment ce film, notamment les Screen Actor Guild Award, qui sont l'un des très très bons indices du triomphe aux Oscars, parce que l'Académie des Oscars est composée en majeure partie d'acteurs. Et donc, habituellement, ça donne un indice assez assez fort. Ce qui surprend peut-être, c'est que normalement l'Académie est assez frileuse et a des choix plutôt classiques. Ben, choisit soit des films assez, c'est ça, classiques dans la forme, ou des dopes, comme disent les Français, des navets. cette année, c'est avec un film de genre. Parce que ce film-là, c'est un film sur un multivers qui met en scène des personnages donc d'origine asiatique. On parle de Michelle Yeoh dans le rôle principal. On parle de Demi-Lune, qu'on avait vu il y a très longtemps dans Indiana Jones, qui a remporté la statuette du meilleur acteur de soutien.
Avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs.
Chacun de ses discours était vraiment très, très émouvant. Il a fait le plein, je pense, que toutes les cérémonies, mis à part les BAFTAs au Royaume-Uni, l'ont récompensé dans la catégorie meilleur acteur de soutien. C'était le cas au Screen Actor Guild Award. C'était le cas aussi au Golden Globes. Mais à chaque fois, c'est vraiment... Tu sais, parfois, on se demande pourquoi on tient des gars-là. Ben, c'est pour des moments comme ça que ça vaut la peine d'être tenu. C'est difficile de pas sourire béatement là, quand on regarde la joie pure qu'il peut éprouver là, très franchement. Mm-hmm. C'est vraiment quelque chose d'assez émouvant, effectivement.
Tout à fait, tu as bien raison. Je pense que ça peut servir entre autres à ça, c'est les galas.
Oui, tout à fait. J'ai mettrai quelques réserves qui étaient très fortes dimanche, qu'ils sont moins peut-être, étant donné que j'ai vu donc les réactions heureuses des gagnants, mais je ne pense pas qu'on ait récompensé le meilleur film de l'année. C'est un film original, c'est un film de genre, donc déjà c'est rare que les récompenses s'accumulent. Dans la forme, c'est très éclaté, il y a effectivement des belles performances, mais est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Est-ce qu'il bat en profondeur ou en intensité dramatique des films comme les Banshees d'Inisherin, qui est un excellent film, ou le film de Sarah Polley, donc Woman Talking, dont on a déjà parlé, qui était mon favori. Je suis pas certain c'est l'un des films qui va rester dans la mémoire collective. Non pas qu'il soit de la stature assez mineure d'Argo ou de Shakespeare in Love, là, qui font partie de ces gagnants totalement absurdes. mais à mon avis, il y avait meilleur. Cette année, il y avait meilleur performance aussi, par exemple, dans l'actrice féminine, je pensais pour Kate Blanchett, qui, à mon avis, était impeccable, quoique Michelle Yeoh était bonne deuxième. Même chose dans la catégorie meilleur acteur, c'est Brendan Fraser qui a gagné pour The Whale. Un comeback, encore une fois, très, très émouvant. C'est une histoire hollywoodienne. Donc, on a presque récompensé un film ou des histoires hollywoodiennes plus qu'un long métrage de fiction, hein, parce que Colin Farrell, par exemple, était à mon avis supérieur, The Whale étant un bon film, mais un film de qualité moyenne. Donc, c'est un 3 étoiles et demie, là, mais qui n'atteint pas la profondeur ou la réussite des autres films de Darren Aronofsky. Donc, quelques réserves à ce point de vue-là.
Comme si on avait récompensé davantage l'événement que la réalisation,
ça,
que le produit.
Ce fait-là, il y a eu un effet d'une campagne très bien menée. Hein. C'est des campagnes d'un studio relativement mineur. Donc, c'est déjà étonnant. Il y a eu une cote d'amour pour le film. La sortie en France... En France, c'est un film qui était passé totalement inaperçu. Donc, il est vraiment ressorti, ce qui signifie habituellement campagne de presse, récemment. Non pas à tort, parce que c'est effectivement l'un des bons films de l'année qui ne méritait certainement pas l'anonymat, mais aussi eu ce mouvement-là d'autres considérations sur la représentation asiatique, par exemple, dans les cérémonies, qui se sont mêlées, qui ont fait en sorte finalement qu'effectivement, c'est l'histoire de cette victoire-là, c'est aussi l'histoire hollywoodienne de laisser pour compte qui triomphe à la fin de la journée. Une belle surprise, mais peut-être pas donc le film le plus méritant de la soirée.
Je comprends ce que tu veux dire avec tout ça, Nathan. Est-ce que ça fait en sorte que est-ce qu'il y a moins de sorties autour des Oscars parce qu'on se concentre vraiment sur revoir d'anciens films?
Généralement, les sorties sont un peu plus rares. C'est la saison des films européens et québécois qui se poursuit, donc les derniers restants de table du Festival de Cannes. Et plusieurs films québécois. On avait, avant la relâche, on avait fait deux critiques. Il y a d'autres sorties qui ont lieu. Donc, c'est vraiment... Dans les grands films hollywoodiens, c'est toujours fin avril, début mai qu'on recommence les grandes sorties. Et effectivement, les grands films américains à Oscar sont déjà parus pour pouvoir concourir. Donc, on a une période un peu creuse, mais il y a d'excellents films à l'affiche. Je pense notamment à Emily, sur l'histoire d'Emily Brontë, que je suis allé voir hier soir, qui est vraiment une petite merveille, avec des heures très ingrates, il faut le dire. C'est présenté dans un seul des cinémas de la capitale, au Clap. Film de 2h10 à 10h55 et à 21h30. Donc, ce sont des heures ingrates. D'ailleurs, le film quitte l'affiche dès demain. Donc, si vous avez le temps ce soir ou demain d'aller le voir, c'est l'histoire de cette écrivaine, donc autrice des Hauts de Hurlevent. Donc, un grand classique de la littérature mondiale, de la littérature britannique, d'une fratrie de sœurs qui ont toutes été écrivaines. Charlotte Brontë, Anne Brontë. C'est une sorte de réflexion libre sur cette cette jeune femme-là, qui était fille d'un pasteur anglican, hein, interprétée avec énormément d'autorité dans le film, disons, quand papa se fâche, ou quand, hein, puis on le voit faire ses sermons en chair, là, disons, un homme cultivé, autoritaire, là, la figure même du pater familias, là, du père, ouais, de famille. Et il y a ses filles, dont Émilie est la plus originale, elle a de la misère à se mêler aux autres, elle souffre d'une sorte d'angoisse existentielle. Et elle décide à un moment donné de se mettre à écrire, justement. Et cette écriture-là va être nourrie par un amour profond pour le vicaire de la paroisse. Donc, on mêle un peu la romance. Une romance assez classique, mais qui réussit, qui est vraiment très, très émouvante et qui s'entremêle bien avec, finalement, ce personnage qui est à la fois effacé et d'une force surprenante, sa relation avec ses sœurs, sa relation avec son frère, une famille très, très éclopée, hein, son frère qui sombre dans la drogue, l'alcool, l'opium à l'époque. Mmh. Et donc, une famille qui subit les affres du choléra aussi. On est au 19e, on est en Angleterre, 18e, 19e. Donc, c'est particulièrement émouvant. Et dans le rôle principal, c'est Emma Mackey, qu'on a pu voir notamment dans Sex Education, sur Netflix. Dans quelques films aussi récents, Eiffel, je pense aussi à un film récent avec Christian Bale par le cinéaste David O. Russell, donc l'auteur d'Arnaque américaine. Donc, une actrice qui perce et qui a vraiment un talent fou, là, les yeux, le visage, une expressivité absolument étonnante, beaucoup de sensibilité. C'est un très beau film. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une question de date de sortie, mais que qu'Emma Mackey n'ait pas été en nomination aux Oscars est en soi assez étonnant quand on sait que, par exemple, Angela Bassett a reçu pour le deuxième Black Panther une nomination pour actrice de soutien. Des fois, on peut questionner un peu les choix de l'Académie.
Tu remets en doute, quoi.
Oui. disons qu'il aurait pu avoir certains changements, ouais, dans ces éléments-là. Mais donc, courez-y si vous avez le temps d'y aller. La version originale, sous-titrée française, c'est vraiment un beau film. 2h10, très poétique. Les images sont d'une beauté absolue.
Ça me parle.
Et les interprétations sont bonnes. Si on aime les romances à la Jane Austen, avec une touche de plus de mystère, là, c'est vraiment un rendez-vous. Mm-hmm.
Et y a-t-il des sorties à surveiller ce week-end? Nathan, tu iras voir quoi? Parce que je suis pas mal sûr que tu vas aller au cinéma, en fait.
Asbestas, donc un film de Rodrigo Sorogoyen, cinéaste espagnol, avec deux acteurs français, Marina Foïs et notre Denis Ménochet, qui jouait dans Chien Blanc aussi, qui est à l'affiche depuis la semaine dernière, mais qui demeure à l'affiche. Il y a tout raflé au prix du cinéma espagnol. Meilleur film étranger aussi au César, si ma mémoire est bonne. Donc, apparemment, les critiques sont unanimes. Je vais me rattraper de ce point de vue-là. Sinon, côté grosse sortie, Shazam, dans le monde des super-héros. Donc, pour ceux qui voudraient expérimenter autre chose.
Un grand merci, Nathan Murray. Et merci d'avoir écouté tout ça là, pour nous.
Ah, mais c'est toujours un plaisir.
Oui,
et une belle évasion.
On se reparle mercredi prochain, Nathan. Et je vous l'annonçais tout de suite avant la chronique, je vous offre une paire de billets pour la pièce Décimée. C'est au Théâtre Périscope jusqu'au 1er avril. Marie-Ève Chabot-Lortie et Louise Chabot étaient avec nous en entrevue à 16h30. C'est une pièce qui parle notamment d'adoption et du fait de retrouver ses racines. Donc, c'est une pièce qui surfe entre la fiction et le documentaire. La première était hier soir. Si vous avez donc envie d'y passer la soirée de demain, jeudi, c'est le moment de décrocher votre téléphone et de composer le 418-656-2215 pour une sortie au théâtre ce jeudi soir du côté du Périscope. Courte pause musicale et publicitaire, à la suite de laquelle c'est Louis-David Gingras qui vient jaser au son de la vie.
Motherfuckers on the side, on reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Cheese 94.3.
C'est quoi exactement du rock? De la musique d'une autre époque? Des sons provenant d'un garage tout sale? Une alternative à la musique pop? Aucune de ces réponses et toutes ces réponses. Le rock, ça change, ça bouge, ça brasse, mais surtout, ça surprend. Si tu veux rebooter ta définition de ce genre musical, écoute Rock Ta Case. Chaque épisode, on vient décortiquer un thème avec des chansons qui méritent d'être entendues. Pour trouver des artistes différents et pertinents, écoute Rock Ta Case un mardi sur deux à 14h sur les ondes de Cheese 94.3.
Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et L'Homme qui a vu l'ours, présente L'inframonde de Jennifer Hallé dans une traduction d'Étienne Lepage et dans une mise en scène de Maxime Perron.
On a une belle maison ici, Iris. Tu fais partie d'une belle famille dans laquelle tu occupes une place importante. On a aussi une communauté agréable, mais tu sais ce qu'on offre, qui est le plus important? Une vie en dehors de toute conséquence.
L'inframonde, du 14 mars au 1er avril 2023. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca.
Aux très chers auditeurs du Cheese 94.3, savez-vous que la musique est la seule drogue qui ne peut pas vous tuer? Alors venez goûter à la pilule chilule. C'est de la synth-pop, de la dream-pop, de l'indie et même des pépites méconnues de la France et de l'outre-Atlantique. Chilule pilule, c'est une cure bien méritée. Tous les mercredis, de 22h à 23h30, sur les ondes du Cheese 94.3 FM.
Quelque part loin.
Polymorphe, la sortie du jour signée Laurence Anne à Chérie J'arrive. L'émission se poursuit jusqu'à 17h30. D'ailleurs, toutes nos félicitations à Alexandre qui remporte la paire de billets pour la pièce Décimée au Théâtre Périscope. Ça prend l'affiche jusqu'au 1er avril si vous avez envie de découvrir ce qui se cache derrière la réalité de personnes adoptées au Québec des années 40 à 70. C'est du théâtre documentaire qui mêle la fiction et l'expérience même de l'autrice. Alors, c'est un rendez-vous au Théâtre Périscope. Et le prochain rendez-vous auquel je vous convie, c'est celui du son de la vie.
Il est présentement 17h17.
Et la voix que vous entendez est celle de Louis-David Gingras. Bienvenue en studio, Louis-David.
Merci beaucoup. Je suis content d'être là.
Moi de même, le son de la vie, ça revient chaque mercredi où nous jazzons, nous improvisons autour d'un thème de ton choix, un thème qui te vient spontanément la journée même ou la veille. Donc, inspiration du moment.
Je travaille fort quand même pour le titre. Je me base sur ma vie, mais je prends au moins un bon 10 minutes à essayer de figurer le bon titre.
Oui, bien formulé ton idée. Et aujourd'hui, on va parler de rêve.
Ouais, écoute, j'avais un beau titre. Est-ce que tu l'as?
Ah oui, je l'ai. Regarde, je sens ma meilleure voix de radio. De rêver dans sa tête, à vivre ses rêves. Par Louis-David Gingras.
Merci. Puis j'ai même mis un point-virgule qui est théoriquement illégal, mais je trouvais que ça changeait le sens. Fait que j'ai mis c'est quoi déjà? Attends.
De rêver dans sa tête à vivre ses rêves.
Ouais, c'est ça. Parce que je voulais que vivre ses rêves, c'est comme une nouvelle étape. Donc oui, c'est le titre du jour parce que là, dans le fond, moi, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves dans les dernières semaines.
Et wow!
Ça fait des années que j'avais des choses en tête puis que là, j'ai dit, là, ça se passe. Fait que là, je voulais parler de ce processus-là. Mais là, un de mes rêves, là, je sais même pas si tu le sais, mais c'est une bonne nouvelle. Là. Mais tu sais, Daniel Grenier, là, c'est un de mes idoles, les Chicken Swell, chandail jaune.
Uh-huh.
Puis là, dans le fond, ça faisait longtemps que... Moi, j'ai une émission de radio, dans le fond, pour les gens qui ne savent pas, les mardis à Chiz.
L'art des histoires.
Puis là, je reçois des artistes. Là, je me suis dit, j'aimerais ça avoir Daniel Grenier.
Wow!
Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Ça faisait longtemps que je voulais rencontrer Daniel Grenier pour X raisons. Je pense que c'est parce qu'il me représente à quelque part. Tu sais, c'est un marginal. Puis toute sa vie, il s'est fait dire qu'il était bizarre. Puis tu sais, je peux relate à ça quand même. En tant qu'il est marginal, tu sais, au secondaire, c'était pas évident de trouver ma place. Puis là, ben, les Chicken Swell, ils m'ont tout le temps affirmé que c'était possible d'être soi-même. Puis tu sais, de faire sa vie de ça.
Wow.
Fait que moi, ça m'a inspiré. Puis là, ben, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça avant mon émission. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une chanson et une vidéo. Ben, une vidéo, et c'est mon cher Daniel que ça s'appelle. Puis là, c'est dit, veux-tu venir à mon émission? C'est vraiment cool.
Tellement craqué!
Le pire, c'est que ça me demande pas tant d'énergie faire ça. On dirait que ça me nourrit. Mais c'est ça, fait que j'ai fait ça. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que ben, Daniel Grenier, évidemment, ça a pris une demi-journée. Il a reçu la vidéo. Il est incroyable. Il a accepté l'invitation.
Wow.
Puis là, je l'ai rencontré. J'étais allé à son spectacle.
Quoi?
J'ai passé du temps avec Daniel Grenier.
Wow!
C'était incroyable. Puis finalement, tu sais, c'était vraiment humain. Tu sais, je me suis dit, tu sais, ce gars-là, finalement, tu sais, c'est moi dans le futur d'une certaine façon.
Mm.
Parce que je veux continuer de faire de l'art puis d'être dans mes folies puis de croire en ça, mais de les partager aux autres, tu sais, après, puis de pouvoir mentorer des jeunes, puis tu sais, de leur dire, ouais, ben tu sais, j'ai fait tout ce chemin-là, puis c'est possible pour toi aussi, là.
Wow! Toi, dans le futur, je comprends ce que tu veux dire. Tu as une vision, puis c'est un objectif un peu.
Donc, c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'était dans ma tête initialement de penser à ça. Puis là, je l'ai matérialisé. Puis dans le fond, toute l'étape, ce qui se me disait, dans le fond, mon rêve, c'était, OK, mon rêve, c'est Daniel Grenier à mon émission.
Mm-hmm.
Puis après ça, comment je concrétise ça? Ben moi, je pense tout le temps à des façons. Je dis, hey, je vais y faire une toune. Fait que c'était ça ma concrétisation. Fait que déjà, faire la chanson, ça concrétise le rêve d'une certaine façon parce que même si je ne l'aurais pas, il n'aurait pas accepté ou il n'aurait pas vu la vidéo,
ouais.
J'ai quand même matérialisé une première étape dans la démarche, ce qui fait que ça m'ouvre d'autres portes. Ben, là, clairement que les gens ils voient ça, puis les gens ont beaucoup de compassion. Fait que tout le monde le partageait, puis t'es comme, hey, c'est dommage drôle. Puis je pense que la vidéo était quand même assez exceptionnelle et de bon goût, là, selon moi. Fait que c'est sûr que les gens, ça venait les chercher. Donc, je me dis, c'est ça. Dans le fond, comment tu concrétises tes rêves? Ben, faut pas que tu penses aux rêves tout de suite. Parce que si je veux rencontrer Daniel Grenier, c'est comme un peu, hein, comment je fais ça, tu sais? J'y écris, c'est un peu mélangeant. Fait qu'il faut que tu penses à la première étape, puis là, tu concrétises ça, puis là, ton rêve, il prend. Fait que c'est ça l'histoire.
C'est difficile parce que Les petits pas, moi, je les trouve difficiles. J'ai de la misère à concrétiser. La motivation vient après l'action. Fait que là, faire la première chose pour moi, c'est, là, c'est tough. Moi, j'avais le rêve de voyager en bateau. Je trouve que la nature me remet à ma place. Je suis bien quand je suis en voilier. Puis là, je me dis, hey, je suis vraiment loin de m'acheter un bateau. Là.
Il n'est jamais trop tard. Puis, tu sais, pour de vrai, quand ça va venir, tu vas te faire hey, comment c'est arrivé, genre.
Mm-hmm.
Mais moi, j'y crois. Il ne faut juste jamais mettre un X à ses rêves. Il ne faut jamais mettre ses rêves à dormir.
Mm-hmm.
Faut les tout le temps les laisser. Moi, j'ai des rêves que ça faisait longtemps le même. Là, il y en a un qui se passe. Je voulais un studio qui est extérieur, tu sais, qui est comme un local, tu sais.
Ouais.
Puis là, toute ma vie, je pensais à ça, mais là, un moment donné, je me dis, je vais pas penser à ça tous les jours, tu sais, je vais juste essayer de faire de l'art ou ce que je peux. Fait que là, mm-hmm. je m'en suis fait un dans ma chambre. Puis là, ben, plus tard, ça s'est manifesté. Puis là, je vais déménager, puis je vais avoir mon studio extérieur. Tu sais, c'est un rêve de longtemps. Fait que je pense que, t'sais, même si ça fait des années que tu as ce rêve-là, ça veut pas dire que ça veut prendre 10 ans. Mm-hmm. Moi, ça m'a pris facilement 10 ans avant que ce rêve-là se réalise. Puis j'étais pas trop impatient parce qu'il y avait d'autres rêves qui se réalisaient entre-temps.
Ouais.
Puis c'est de savoir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu veux faire.
C'est pas obligé d'être tout de suite.
Ben surtout pas. Puis tu sais, des fois, on n'est pas prêt. Hein?
Le rêve arrive plus vite qu'on le voudrait, c'est ça que tu veux dire par on n'est pas prêt?
Ben des fois on n'est pas prêt, mais dans le sens, mettons, tu sais, moi si j'avais un studio extérieur, j'aurais eu mon studio extérieur il y a 5 ans, ben j'étais vraiment pas où je t'en ai rendu en tant que musicien. Je pense pas que j'aurais profité autant. Ça aurait peut-être même pas été de quoi que j'aurais passé mon temps là tant que ça. Finalement, j'aurais peut-être pris pour acquis puis j'aurais joué à des jeux vidéo. Tu sais, à l'époque, j'étais pas vraiment concentré. Ben, je faisais autre chose, tu sais, j'étais ailleurs dans ma vie. Mais tandis que là, aujourd'hui, je suis passionné, je suis à fond dedans, fait que je suis prêt maintenant à avoir cet espace-là. Parce mm-hmm. que l'espace va pouvoir, je vais pouvoir bénéficier de l'espace, puis l'espace va pouvoir m'apporter quelque chose. Donc, c'est ça.
J'admire ça, puis c'est tellement une belle phrase. Hey, cette semaine, j'ai réalisé plusieurs de mes rêves. C'est
capoté. J'en ai un autre. Veux-tu l'entendre? Hey, ça pas de bon sens. Moi, je suis une explosion de bonnes nouvelles aujourd'hui pour les gens, mais j'espère que les gens vont pas être jaloux. Vont, oh, tu sais. Mais en tout cas, moi, je veux juste. Mon message, c'est que tout le monde peut.
Hmm.
Moi, je suis pas spécial. Je suis comme tout le monde. C'est juste que je crois en mes rêves, puis je persévère. Mm-hmm. C'est peut-être ça qui fait que je suis peut-être spécial. C'est que je suis vraiment persévérant, puis même si tout le monde me dit de pas le faire, je le fais pareil.
Mais c'est tout à ton honneur, puis c'est l'une des choses que je trouve inspirante chez toi, Lou David.
Merci.
Ouais.
T'as pas des applaudissements?
Bon, il faudra faire ajouter ça dans ma palette de sons, les applaudissements.
Je t'en ferai, si tu veux.
Excellent, wow.
J'en ai des applaudissements.
C'est cute. Mais ton rêve numéro 2?
En fait, c'est festival de théâtre. Là, la programmation a été lancée, puis là, j'ai un spectacle qui s'en vient le dimanche 26 mars prochain. Ça va être fantastique, puis dans le fond, ça s'appelle La Suite Nébuleuse. Et c'est une conception sonore que j'ai faite de à peu près une heure, qui compose, là, attachez votre sucre, 52 pièces originales de musique. C'est quand même assez incroyable.
Aïe, aïe.
Puis c'est des pièces entre 30 secondes et 3 minutes. Puis ils sont vraiment toutes uniques. Là. Ils ont toute leur vie. Ça fait des années qu'ils ont commencé à être créés. Puis pour de vrai, moi, j'ai vraiment hâte que les gens vivent ça. Puis ça va vraiment être une belle expérience, que les gens vont pouvoir aller là puis vivre ça. Puis tu sais, moi, c'est un rêve. Ça faisait longtemps que je voulais faire projeter ma musique dans une pièce, puis ça a pris du temps là, avant. Mais sauf que là, je me sens prêt, puis je sens que le monde sont prêts aussi, peut-être. Parce que peut-être aussi, il y a ça. Hein? Mm-hmm. Il faut que le monde soit prêt à écouter ça. C'est quand même hors du commun. Voilà, c'est mon rêve de la semaine. Et je tiens à inspirer tous les gens à poursuivre leur rêve, mais pas de justement vouloir trop que ça arrive maintenant. Mm-hmm. Faites juste persévérer, puis il y aura tout le temps quelque chose que vous pouvez faire puis vous pouvez recevoir dans le moment qui va vous bénéficier puis qui va permettre de continuer la route.
Mm-hmm. C'est une belle façon d'arriver au défi de la semaine, Lou David.
Le défi de la semaine, ben je dirais que ben c'est souvent, sûrement dans le thème là, mais je dirais c'est ça. Écrivez vos rêves. Ouais, c'est bon ça. Écrivez-les sur un papier. Parce que dans le fond, si tu les as dans ta tête tout le temps, ça peut être un peu embêtant. Là. T'sais, surtout quand tu as beaucoup d'ambition, c'est difficile à garder tout ça dans ta tête. Fait, écris-les sur un papier, puis oublie-les même. Puis là, plus tard, tu rouvres ça, puis tu es comme hey, « tout ça, ça s'est réalisé ». Fait que moi, c'est le défi de la semaine. Prenez un petit 10 minutes, un crayon, un papier, faites des points de tout ce que vous avez envie de faire. Puis dans votre vie, là, pas obligé que ça soit maintenant. Là. Toute votre vie, dis, il me reste peut-être 50 ans à vivre. C'est quoi que je fais dans mes 50 ans? Puis tout, il n'y a rien de plus fou. Il n'y a rien de trop fou.
Tout est permis.
Tout est permis. Mm-hmm. Fait que c'est le défi de la semaine.
Wow! Merci beaucoup, Louis-David. C'est un plaisir de t'avoir au micro encore une fois. Et j'espère qu'on se revoit mercredi prochain.
Ben, j'espère. Les gens vont peut-être pas me voir, mais ils vont m'entendre forcément la semaine prochaine.
Avec plaisir. Je vais le faire, le défi.
Puis à l'heure des histoires aussi.
Parfait. Excellent. Mardi, à l'heure des histoires.
Mardi, il est 10h matin.
C'est déjà tout pour cette édition de Chérie, j'arrive. Ça passe à la vitesse de l'éclair, une édition comme ça. Point, point. Et puis, ben, Louis-David est là pour terminer l'émission avec nous.
Yeah.
J'aimerais remercier Marie-Ève Chabot-Lortie et sa maman, Louise Chabot, d'être passée à l'émission. La pièce décimée, qui parle pas mal de leur histoire, va être à l'affiche au Périscope jusqu'au 1er avril. La première était hier et, ben, il y a déjà une couple de soirées de complète, alors je vous invite à prendre des billets rapidement. Ça promet d'être émouvant, puis je peux le dire, ben, c'est émouvant, je suis allée la voir hier. Fait que c'est pas ça promet, c'est émouvant. Ça parle notamment d'adoption, de recherche de ses racines et puis de tout l'impact que ça peut avoir sur son entourage. Alors, décimé jusqu'au 1er avril au Théâtre Périscope. Merci à Estelle Grignon, directrice musicale de Choc, tout droit sortie de Montréal, de nous tenir au courant de ses actualités culturelles montréalaises. Estelle nous invite à écouter Les Francouvertes. Certes, vous ne pouvez pas tous être au Lion d'Or à Montréal, alors prenez donc un billet pour écouter Les Francouvertes en ligne. Et vous pouvez également voter pour vos artistes favoris. Il y a 21 artistes qui ont réussi à se qualifier pour les Francouvertes cette année. Ce fabuleux tremplin culturel pour la relève émergente. Puis, disons-le, il y a quand même pas mal de belles personnes qui sont ressorties gagnantes de ces concours-là qu'on connaît désormais aujourd'hui. Je pense entre autres à Thierry Larose, à Calamine, à Laurent Sam. Alors, jetez un petit coup d'œil aux Francouvertes. Ça commençait lundi dernier. Il y a encore pas mal de soirées, 3 bands par soir. Rendez-vous sur le site des Francouvertes pour prendre votre billet et écouter tout ça en ligne. Merci également à Louis-David Gingras, chroniqueur du son de la vie avec qui on jazz tous les mercredis. Je remplirai le défi de la semaine et je vous invite vous aussi à noter quelque part tous vos rêves, chers auditeurs, chères auditrices. Et mes derniers remerciements vont à Nathan Murray, chroniqueur cinéma, qui nous a fait un fabuleux compte-rendu des Oscars où il n'y a pas eu cette année de situation scandale. Alors, une cérémonie dans l'émotion, oui. Et il nous invite, bien sûr, à écouter Everything, Everywhere, All at Once, ce film qui a remporté 7 statuettes. On se reparle bientôt, très cher. Chérie, je suis arrivée. Motherfuckers on the side. On reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Radio Futura est de retour. Bientôt, bientôt, samedi, dimanche. Pronto, pronto. Si algo me está enseñando la vida, es que no hay que hacer demasiados planes, que todo puede cambiar en tan solo un momento, que hay que aprovechar cada oportunidad, que hay que saborear